Bonsoir, bienvenue et merci d'être ici ce soir pour la conférence de Monsieur Jacques Descourtil. Vous m'entendez pas ? Voilà. Ça n'a pas d'importance, dit Jacques Descourtil. Ben oui. Ben, Monsieur Descourtil est là ce soir. Il a la gentillesse de venir assurer cette conférence. Vraiment, beaucoup de générosité. Merci. Il remplace, comme vous le savez, Anne-Laure Connaisson qui est malade. Elle est hospitalisée pour une bronchopneumonie. Vous avez été tous avertis. Évidemment, ceux qui n'ont pas de cet engin moderne ne l'étaient pas. Maintenant, vous savez que la conférence a été changée, de même que le conférencier, puisqu'il s'agit d'un monsieur, Monsieur Jacques Descourtil. Pour mémoire, alors, Monsieur Descourtil m'a demandé de faire une présentation très courte, très succincte, simplement, tant il est connu et célèbre ici à Bordeaux. Pour mémoire, je rappellerai qu'il est professeur d'histoire de l'art antique et d'archéologie à l'université Bordeaux 3, qu'il a conduit des fouilles, je ne sais pas s'il continue à fouiller, non, c'est fatigant, et qu'il a écrit... Voilà, la terre est très très basse, qu'il a, je ne sais même plus ce que je dois dire, qu'il a écrit beaucoup d'articles, il a publié certains ouvrages. Et pour ceux qui n'ont pas eu le message, je vous donne le titre de la conférence de ce soir, « Romain ou antique ?» Point d'interrogation. L'imitation, alors là vraiment, ça ne va pas ce soir. Ah voilà, alors je vais le lire. « L'imitation de l'antique dans l'architecture classique européenne ».
Oui, je voulais mettre chinoise, mais finalement...
Il a changé, voilà. Bah, écoutez, moi je suis un peu troublée cette semaine, parce qu'avec ces émotions, je dois dire... Bah, enfin, pour terminer, je voulais vous remercier infiniment, monsieur, cher Jacques, d'être ici ce soir. Et au nom de toute l'équipe, vous exprimez toute notre gratitude. Merci. Merci.
Et là, vous m'entendez ? Ah, c'est formidable. Pas beaucoup, c'est bien suffisant. Ah, trop peut-être. Ah oui, ça résonne, c'est extraordinaire, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Bien, mais écoutez, bonsoir à tous, merci, chère madame, chère Marie-Claire, de votre accueil. Je suis très content d'avoir pu vous rendre ce petit service. Il y a quand même deux déceptions. La première, c'est évidemment que nous manquons une conférence très intéressante sur un sujet passionnant et original. Et puis la deuxième, c'est que le sujet que je vous présente n'est pas du tout original, et donc ne sera pas passionnant, mais au moins vous aurez passé une heure au chaud, et ça sera très bien. Hein ? Voilà. Alors, ce que je voudrais simplement essayer de développer au cours de cette conférence, c'est pas seulement le fait que l'architecture antique a été imitée dans l'architecture classique européenne, parce que ça, tout le monde le sait, et il suffit de se promener dans les rues de Bordeaux pour s'en apercevoir. C'est essayer de comprendre un peu plus précisément de quelle façon cette imitation s'est faite, et aussi si ça a été une imitation aussi globale que le mot « antique », suppose ou le sous-entend, et si on ne peut pas voir dans les modalités des imitations qui ont été faites, eh bien, des variantes ou surtout des sources d'inspiration différentes. Alors c'est donc cela que je vais essayer de montrer. Alors je partirai de deux exemples dans l'architecture médiévale, non pas pour essayer pour prouver que l'architecture classique serait plus belle ou plus intéressante que l'architecture médiévale, simplement pour insister sur les différences. Ces différences sont dans les matériaux, dans les techniques, mais aussi dans les formes, et c'est surtout ça qui est prégnant pour le spectateur. L'architecture médiévale est souvent une architecture défensive, c'est aussi souvent une architecture qui ne recherche pas la symétrie, qui ne cherche pas l'ordonnance, mais qui s'adapte à des besoins fonctionnels. Alors, évidemment, quand on regarde la façade d'une cathédrale, ici la cathédrale de Reims, on se dit qu'il y a quand même un travail sur les formes et sur les proportions, qui est assez remarquable. Mais vous savez aussi que ce genre d'ouvrages sont des chefs-d'œuvre tout à fait exceptionnels, et on ne peut pas dire que cathédrale soit en soi entièrement représentative de la totalité de l'art médiéval. Par ailleurs, je pense que, en exagérant un tout petit peu, en forçant le trait, en regardant une façade comme celle-ci, on doit se dire que le travail est plus fait sur la symétrie, sur l'élan vers le haut, naturellement, qui a une symbolique religieuse évidente, et aussi sur la décoration, mais pas forcément sur la recherche des proportions. Or, c'est peut-être l'un des points sur lesquels l'architecture classique essayera de reprendre des principes de l'Antiquité qui n'ont pas été utilisés systématiquement, en tout cas au Moyen-Âge. Alors, en opposition aux deux exemples que je viens de vous donner, je vous propose ici un petit fragment, si je puis dire, un petit morceau de la grande galerie du Louvre, hein, qui donne sur la Seine, qui est un des meilleurs exemples qu'on puisse donner de l'architecture classique de la Renaissance. Puisque j'emploie ce mot, je tiens à souligner le fait que cette passionnante période que nous appelons la Renaissance, qui s'appelle depuis cette époque-là pratiquement la Renaissance, est pour beaucoup une renaissance de l'Antiquité. Vous savez que c'est à partir du XVe siècle en Italie, et pour toutes sortes de raisons, et au XVIe siècle en France, avec un petit décalage, que l'on redécouvre ou que l'on répand la culture classique, qui avait été non pas oubliée au cours du Moyen-Âge, mais mise de côté du fait de toutes sortes d'événements, et aussi du fait que les textes ne pouvaient plus se diffuser de façon, enfin ne se diffusaient pas très facilement, alors que l'invention de l'imprimerie a permis brusquement une grande diffusion de cette culture classique qui était restée comme gardée par des vestales dans les monastères, si je puis dire, et qui brusquement va se répandre. Alors cette façade, ce morceau de façade, nous montre donc des étagements d'ordre, hein, qui font partie des acquis de l'architecture antique, hein, l'ordre, vous connaissez l'ordre corinthien, l'ordre dorique, l'ordre toscan, j'en reparlerai un petit peu, mais je n'insisterai pas, ce sont des choses qui sont bien connues, qui montrent surtout un travail sur la symétrie, et puis tout un arsenal décoratif qui est directement emprunté à l'Antiquité, n'est-ce pas ? Ce sont ces pilastres, les décors à feuillage, les frontons, qu'ils soient incurvés ou rectilignes, et ainsi de suite. Donc tout ça nous est familier, n'est-ce pas ? Et vous l'êtes autant qu'à moi. Et il est évident que du premier coup d'œil, nous sommes capables de distinguer cet édifice d'un édifice du Moyen-Âge, et aussi de d'y saisir, plus ou moins dans le détail, toutes les citations empruntées à l'Antiquité. Alors, on peut s'amuser à faire une petite galerie de ces constructions célèbres. Encore ici, le Louvre, hein, il s'agit de la fameuse colonnade de Perrault, que vous connaissez tous, qui présente, elle aussi, tout un attirail antique. Hein. Vous avez à l'extrême droite de la photo des pilastres engagés, puis dans la colonnade proprement dite, des colonnes avec ces fameux chapiteaux corinthiens, qui ont, avec leur feuillage d'acanthe, que vous retrouvez par exemple au Grand Théâtre de Bordeaux, naturellement, le fronton central, la symétrie générale, tout cela est évidemment une survivance, ou plutôt une renaissance de l'architecture antique. On dira la même chose, évidemment, des monuments plus récents d'un siècle, hein, de la place de la Concorde, hein, toujours à Paris, hein, de Gabriel, mais là, nous sommes dans un terrain familier, puisque Gabriel a sévi, si je puis dire, également à Bordeaux. Et quand on s'amuse à ce que je fais souvent avec mes étudiants, à aller place de la Bourse et à faire une étude de détail des façades admirables de cette place, eh bien, on trouve, y compris au rez-de-chaussée, avec cet ordre à bossage, hein, ces gros blocs à bossage, avec ces colonnades ou ces pilastres de l'étage, hein, qui sont en ordre colossal, avec ces frontons, tout cela eh bien, nous replonge évidemment dans l'amour de l'Antiquité qui animait les architectes du XVIIe et ici du XVIIIe siècle. J'aurais pu... voici alors un exemple encore plus frappant peut-être, je reviens à Paris avec, vous l'avez reconnu, la cour carrée du Louvre, avec son pavillon central qui est un tout petit peu plus récent que le reste, mais qui porte, je ne sais pas si vous les voyez, hein, le pavillon de l'horloge au sommet, il y a ces cariatides qui ne sont pas sans vous rappeler, évidemment, les fameuses cariatides d'Athènes, et puis aussi ces frontons à la fois incurvées et rectilignes, qui sont aussi un emprunt à l'architecture. Ici, je vous présente un exemple en Asie mineure, hein, en Turquie actuelle, dans le site d'Aphrodisias, que j'espère beaucoup d'entre vous ont eu le plaisir de visiter. Donc, on sent bien que, sans entrer dans le détail et sans les étudier de façon trop systématique, les architectes de la période classique, j'ai pris uniquement des exemples français jusqu'ici, se sont inspirés, se sont nourris de la culture antique. Alors on sait aussi qu'à partir du XVIIe siècle, il était d'usage de se rendre en Italie, en particulier à Rome, évidemment, centre des arts et de la chrétienté, mais surtout des arts ici, pour aller voir les vestiges de l'ancienne Rome et s'en inspirer, aller visiter les musées de Rome aussi, en tout cas le musée du Vatican, et y admirer les statues et les bas-reliefs qui avaient été retrouvés dans le sous-sol de Rome dès le XVe siècle. Donc, tout a l'air simple et tranquille. Au fond, une période s'inspire d'une autre. C'est une sorte de retour aux sources antiques, retour qui s'est fait dans un climat un petit peu particulier, parfois, hein, d'opposition à la papauté, hein, pour des raisons à la fois politiques et religieuses, une sorte de libération aussi de l'esprit, je dirais, civil ou laïque ou profane. Hein, vous avez remarqué, je ne vous ai pas montré d'édifice religieux jusqu'à présent. Les plus belles illustrations de l'architecture classique française se trouvent plutôt dans l'architecture civile. Bref, que des banalités jusqu'à présent, et si le reste de la conférence est comme ça, ça va être épouvantable, n'est-ce pas ? Je sens que je vais commencer à m'ennuyer, mais on va essayer de varier. Alors, avant les Français, je le rappelais tout à l'heure, vous le savez aussi bien, si ce n'est mieux que moi, il y a eu les Italiens. Et les Italiens qui avaient la chance, si je puis dire, d'être sur place, ils ont assisté dès le moment du retour de la papauté depuis Avignon jusqu'à Rome et la grande Renaissance romaine, ils ont assisté donc aux grands travaux qui ont eu lieu à ce moment-là pour construire les nouveaux palais des dignitaires romains et des ambassadeurs des royaumes voisins. Et ils ont vu sortir de terre la Rome antique. Ils ont, vous savez, Michel-Ange assiste à l'apparition, la réapparition du Laocoon, de la fameuse statue de Laocoon. Bref, ce sont les Italiens qui, évidemment, ont été les premiers à bénéficier, puisqu'ils étaient sur place, de ce mouvement, cet engouement nouveau pour l'art antique. Alors, j'en donnerai juste quelques exemples, mais il est intéressant de voir en quoi il consiste exactement. Je commence par je ne vous les citerai pas tous, naturellement, il y en a tellement. Je commence par Alberti, qui était un génie encyclopédique, qui était un personnage tout à fait extraordinaire, qu'on aurait aimé rencontrer, tellement il était cultivé, curieux de tout, intelligent, qui a construit un certain nombre d'édifices, mais pas énormément, qui a surtout laissé un traité, hein, le De re aedificatoria, hein, de la construction, dont je vous montre ici simplement le frontispice de l'édition française, hein, qui est plus récent, hein, puisque le traité originel date de 1485. Lorsqu'on lit Alberti, ce que je n'ai pas fait, sauf par bribes, on s'aperçoit que c'est un architecte qui s'inspire directement du grand architecte romain Vitruve, que vous connaissez tous. Je vous rappelle néanmoins en deux mots que Vitruve était un contemporain de l'empereur Auguste, ou des débuts de l'empereur Auguste. Hein, Vitruve a vécu à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et il a laissé un traité d'architecture qui est bien connu, le De Architectura, qui est en 10 livres, donc divisé en 10 livres, et qui est le seul traité d'architecture antique qui nous soit parvenu. Donc c'est un peu la Bible de l'architecture antique, du moins c'est la seule dont nous disposions. Et on n'est pas étonné de constater que Alberti s'en est étroitement inspiré, d'autant plus que lui-même avait une grande admiration pour les monuments antiques qu'il voyait autour de lui. Alors parmi les œuvres qui nous ont été laissées par Alberti, il y a en particulier la cathédrale de la ville de Rimini, sur la côte adriatique de l'Italie, où se trouvait le fameux tyran Malatesta, hein, le comte d'Othiers et Malatesta, qui a été immortalisé par la pièce de Monterland. Et c'est pour lui que Alberti avait entrepris de construire une église, ou de plus exactement de restaurer, de moderniser une église gothique, qui était consacré à Saint François, mais qu'on appelle le temple de Malatesta, un Tempio Malatestiano, parce que c'est là que c'est la dernière demeure aussi de Malatesta lui-même. Alors, l'intervention d'Alberti a consisté en quelque sorte à refaire la carrosserie de l'église, comme on dirait dans un garage. Et malheureusement, le travail est inachevé, mais ce qui reste ce qui a été fait de la façade montre bien la volonté de s'inscrire dans une tradition antique qui se voit d'abord à la symétrie générale, mais aussi au fait que Alberti a inscrit trois arcatures dans la façade qui, évidemment, rappellent un arc de triomphe. Et justement, à la porte de la ville de Rimini, se trouve un arc antique romain dont, de toute évidence, Alberti s'est directement inspiré. Et puis, ces arcatures sont elles-mêmes habillées, ou plutôt encadrées, par des colonnes corinthiennes engagées, supportant un entablement à l'antique. Donc, nous avons ici... plus qu'une imitation, des citations explicites d'architecture romaine. Un contemporain d'Alberti, un peu plus récent, c'est Sangallo, que vous connaissez aussi, à qui on doit un certain nombre d'édifices remarquables. Je vous en montre simplement un. C'est cette villa qu'il a construite à Poggio a Caiano, c'est dans la région de Trévise, pour Julien de Médicis, ou pour Laurent, pardon, et qui est un édifice assez surprenant par le caractère disparate de son architecture, puisque, en gros, vous avez un cube, ou plus exactement un rectangle, un parallélépipède, qui est le corps de logis principal, entouré d'une galerie à arcatures, mais en plein centre, Sangallo a placé ce fronton, plus exactement, cette façade de temple, on a vraiment l'impression qu'il a imité, enfin, il a explicitement imité un temple romain avec ses six colonnes, avec un entablement à l'antique, avec un fronton, avec des sculptures. Et donc, c'est une sorte d'incrustation, n'est-ce pas, dans une façade qui est très, très simple, très dépouillée, d'un morceau, d'un bijou, n'est-ce pas, d'architecture antique auquel le reste de la façade sert, en quelque sorte, d'écrin. Donc, on voit à quel point les architectes du XVe ou du début du XVIe siècle, en Italie, étaient tous tournés vers l'architecture antique, tout en l'adaptant, bien entendu, aux besoins et aux désirs de leur époque. Autre exemple, bien connu, c'est le fameux Bramante, dont j'aurais pu vous montrer, évidemment, l'œuvre la plus connue, qui est la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome. J'ai préféré vous montrer ce petit bijou qui se trouve à l'écart dans les bâtiments annexes de l'église San Pietro in Montorio, et qui s'appelle le Tempietto, le petit temple. C'est une sorte de chapelle qui est vraiment un petit bijou aussi d'architecture antique, avec donc cette construction circulaire élevée sur des marches, ce qu'on appelle une crépisse chez les architectes grecs antiques. C'est une colonnade toute simple, avec des colonnes qui n'ont pas de cannelure. Les cannelures, ces stries verticales, seront très peu imitées par les architectes classiques. Et donc ici, c'est des Balkans. Vous avez par-dessus un entablement de style dorique, je ne rentre pas trop dans les détails, et une coupole. Cette coupole qui nous paraît familière, nous est familière et qui semble appartenir en propre aux édifices classique à partir de la Renaissance italienne et qu'on retrouve sur tant d'églises, mais qui en réalité est aussi un héritage de l'Antiquité romaine. Toujours parmi les architectes italiens de la Renaissance, je m'arrêterai un petit peu plus longtemps sur Palladio, peut-être par goût personnel, et j'espère que ça ne vous ennuiera pas, et aussi parce que peut-être que c'est celui qui pose le plus de problèmes d'interprétation de sa manière de construire. Alors voici d'abord le traité, parce que la plupart de ces architectes, je vous ai cité le traité d'Alberti, mais les autres aussi, je n'ai pas cité Serlio, mais qui avait laissé un traité d'architecture, et Palladio aussi a laissé un traité d'architecture, donc voici là aussi le frontispice, qui a été publié donc à Venise, puisque vous savez que Palladio était de la région de Venise, ou plus exactement de la petite ville de Vicenza. Et il a lui aussi rédigé un traité d'architecture avec des illustrations qui est extrêmement intéressant parce qu'on peut le mettre en rapport avec les édifices que ce même Palladio a construit. Mais ce n'est pas tellement cet aspect-là, bien que je vais l'évoquer, qui va m'intéresser, mais la conception que Palladio pouvait se faire de l'Antiquité. Alors, à titre d'illustration, je vous montre ici une des gravures qui se trouve dans le traité de Palladio et son modèle. Il s'agit tout simplement de la maison carrée de Nîmes. Donc un édifice qui vous est familier. Malheureusement, je vous prie de m'en excuser, je n'ai pas trouvé de photos prises de face et orthonormées de la maison carrée de Nîmes, parce que ça va évidemment faciliter la comparaison. Ce que je veux suggérer, en tout cas par cette juxtaposition d'images, c'est à la fois la fidélité, la précision avec laquelle Palladio imite, hein, c'est plus qu'une inspiration ici, c'est une imitation d'un édifice antique qui est conservé debout, donc il n'y a pas de part d'imagination ici. Palladio dit, voilà, je vous présente une façade romaine, enfin d'architecture romaine, telle qu'on peut la voir. Et en effet, la comparaison est très juste. Alors, si on va rechercher dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a des petites erreurs. D'abord, il y a quelques petites additions, ce sont les statues que Palladio a rajoutées, mais ce n'est pas très méchant, et surtout, ça ne change rien à l'architecture de l'édifice. Et puis, il y a les dimensions des chapiteaux corinthiens qui ont été un petit peu exagérées par Palladio, et aussi la prégnance de la frise avec ce magnifique... ces magnifiques rinceaux de feuillage, hein, que vous avez juste sous le fronton et auxquels, par le fait même du dessin, en fait, Palladio donne un peu plus d'importance qu'ils n'en ont dans la réalité de l'édifice. Néanmoins, ici, Palladio, d'une certaine manière, fait un travail, pour ainsi dire, d'archéologue ou en tout cas d'architecte extrêmement sérieux qui fait un relevé d'un édifice. Et puis, après cela, eh bien, ou en même temps, Palladio construit. Il a beaucoup construit, comme vous savez. Alors, je vous donnerai simplement quelques exemples des édifices qu'il a construits, en commençant par ce qu'on appelle la basilique palladienne de Vicenza, de Vicence, qui est en fait un édifice civil, un tribunal, enfin, il avait des fonctions administratives, et qui datait de la période gothique, et à qui les autorités de la ville de Vicence ont demandé, les autorités effectivement de la ville de Vicence ont demandé à Palladio d'ajouter donc ou de réformer cet édifice en lui donnant, en le modernisant et surtout en le rendant plus fonctionnel parce qu'il posait des problèmes. Alors comme Alberti l'avait fait avant lui, de la même façon donc, Palladio a rhabillé, si je puis dire, cet édifice en lui donnant donc cette allure extrêmement régulière, hein, d'arcade sur deux étages. Sur les quatre façades, vous avez exactement la même disposition, donc une disposition extrêmement régulière. Je vous la montre ici de face pour que vous puissiez bien jouir de l'aspect extrêmement régulier de cette façade. Vous apercevez derrière les restes de l'édifice gothique qui sont en quelque sorte travestis, hein, ou rhabillés par Palladio, et puis un certain nombre de détails, parmi lesquels, alors il y a d'abord l'utilisation de cette forme architecturale qui constituait d'une arcade centrale s'appuyant sur deux colonnes qui elles-mêmes sont détachées des murs et donc ménagent deux ouvertures à droite et à gauche, hein, tout à fait symétrique. Alors, ce motif que l'on retrouve sur tout le long des quatre côtés de l'édifice n'est pas une invention de Palladio, c'est une invention d'un autre architecte que je viens de citer, c'est Serlio, et c'est devenu ce qu'on appelle un motif architectural. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de type figé peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas fixé, et que dont les architectes vont s'emparer parce qu'ils trouvent ça assez heureux. Ça me permet de faire une arcade assez noble avec des passages latéraux. Ça donne une certaine majesté à quelque chose qui, en plus, serait un petit peu trop répétitif. Hein, les arcades, si vous pensez aux arcades de la rue de Rivoli, n'est-ce pas, c'est un côté un petit peu simpliste. Ici, il y a quelque chose qui anime. Vous avez aussi un motif qui est un petit détail annexe, mais qui est intéressant à voir, ce sont ces deux oculi, hein, ce qu'on appellerait en France des œils de bœuf, même si ça n'en sont pas ici. Hein, donc ces deux ouvertures circulaires qui n'ont pas grande fonction, mais qui sont un petit motif qui vient animer une partie de cette façade qui, sinon, serait constituée par de la pierre lisse. Alors, c'est un, pour vous montrer à quel point ce motif, d'abord, il faut, vous le savez sans doute, hein, c'est un motif qui a reçu le nom de son inventeur, ou du premier qu'il a utilisé, Serlio, on appelle ça une serlienne. Et on en trouve beaucoup dans l'architecture italienne, un peu moins dans l'architecture européenne, mais vous serez peut-être surpris, agréablement, de savoir qu'il y en a une, au moins une à Bordeaux, pas loin d'ici, où je crois, d'abord, vous voyez l'imitation lointaine de la disposition d'un arc de triomphe, hein, là c'est l'arc de Constantin à Rome, dont évidemment Serlio et après lui Palladio s'inspirent, mais aussi à Bordeaux, comme je vous le disais, oh pardon, je suis passé trop vite, je vous le remets, c'est de la magie, voilà, au 35 cours Clémenceau, vous avez la maison de l'eau, dont la façade présente très exactement une serlienne. Alors malheureusement, cette photo a été prise à un moment où il y avait une affiche qui cache un peu l'arc central, mais qui vous prouve qu'il s'agit bien de la maison de l'eau, voilà. Donc un motif qu'on peut retrouver jusque chez nous et qui est donc une réinterprétation libre de l'architecture romaine avec des mélanges étonnants puisque au-dessus de l'arc central, vous avez un entablement de style dorique qui en réalité n'a rien à faire à cet endroit-là, n'est-ce pas ? Donc on voit bien que Palladio reprend des éléments de l'architecture antique aussi des éléments qui ont déjà été retravaillés par d'autres architectes italiens, et il compose avec cela des nouveaux types de façades. Ça aura beaucoup de succès. Et voici un autre exemple emprunté à un palais vénitien qui vous montre exactement le même arrangement, sauf qu'il ne s'agit pas d'une serlienne ici. Vous voyez, c'est une succession d'arcs entre lesquels s'interposent donc des colonnes engagées, et au-dessus, vous avez de nouveau un entablement dorique qui est un petit peu fantaisiste, avec des ornements qui, pour le coup, ne sont pas vraiment, sont vaguement d'un style antique, mais sont beaucoup plus évidemment de style Renaissance. Donc voilà quelques exemples de ce travail que les architectes italiens font sur des avatars, hein, des souvenirs de l'architecture romaine. J'aurais pu évidemment vous parler aussi à ce propos de Vitruve lui-même, c'est-à-dire du traité d'architecture antique de Vitruve qui était dans tous les esprits, qui a été traduit en italien et illustré aussi par plusieurs architectes italiens, y compris Piranèse, qui en a fait une édition tout à fait remarquable. Le traité de Vitruve, en effet, est un texte, 10 livres, comme je vous l'ai dit, mais les illustrations qui l'accompagnaient peut-être au moment où Vitruve l'a écrit ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Donc les architectes italiens de la Renaissance se sont donné le plaisir d'illustrer le texte de Vitruve et évidemment entre leurs propres dessins et ce qu'ils ont fait pour Vitruve, il y a une sorte de parenté, c'est plus qu'une parenté, c'est quasiment la même chose. Vous savez que les poètes de la Pléiade en France, Ronsard et Dubellay, disaient qu'il fallait, avant de composer des poèmes en langue française, qu'il fallait d'abord lire beaucoup de poèmes en latin et en grec pour en être complètement nourri de l'intérieur, et ainsi ils pourraient rédiger spontanément, créer des poésies françaises, mais qui seraient totalement imprégnées de culture latine et grecque. Eh bien, c'est un peu ce que faisaient donc les architectes italiens de la Renaissance. Alors, je vous montre maintenant juste deux ou trois exemples des villas de Palladio, pour vous montrer à la fois les ressemblances et les différences avec ce que nous venons de voir, c'est-à-dire ces imitations très très précises de l'architecture antique. Voilà d'abord la villa Emo, qui est donc constitué d'un corps central massif, qui est la partie principale de l'édifice, avec des corps de logis, donc des ailes latérales, et des pignons, enfin des pavillons, aux extrémités. Lorsqu'on s'approche, on découvre que la partie centrale est une loggia, avec une architecture extrêmement simple, à l'antique, mais très dépouillée, et on aperçoit à l'intérieur les peintures, qui sont d'un peintre de petite renommée, quand même un peintre tout à fait honorable, mais qui a ici réalisé des trompe-l'œil qui sont très intéressants parce qu'ils sont eux aussi à l'antique. Vous avez ici des motifs, je ne vais pas les détailler, ce serait fastidieux, mais croyez-moi sur parole, c'est très dangereux, je sais bien, mais vous le ferez quand même. Nous avons ici des transpositions d'une précision extraordinaire de motifs architecturaux, hein, de ce qu'on appelle les moulures architecturales, d'architecture romaine et même grecque. Hein. Et c'est tout, enfin, en tout cas romaine de l'époque augustéenne. Et c'est tout à fait impressionnant de voir que ce peintre a poussé le souci du détail jusqu'à reproduire ces dessins. Alors, ces motifs qui, dans la réalité antique, étaient en trois dimensions, n'est-ce pas, étaient sculptés, mais ici, c'est entièrement peint en trompe-l'œil. Hein, et vous voyez que l'illusion est assez remarquable. De la même façon, hein, cette loggia est agrémentée de demi-colonnes ioniques engagées qui sont également en trompe-l'œil, mais qui sont tout à fait conformes au canon de l'Antiquité. Donc vous voyez que même quand ce n'est pas l'architecture, c'est la peinture qui imite l'architecture. Je prends maintenant un autre exemple qui est peut-être encore plus connu, c'est la fameuse Villa Barbaro dans le village de Mazer, qui est donc encore une villa palladienne, avec moins d'extension en longueur, mais un corps de logis central qui est encore plus imposant, n'est-ce pas, avec son ordre colossal. Vous voyez, vous connaissez cette expression d'ordre colossal qui désigne donc un ordre de colonnade qui occupe la hauteur de deux étages d'un seul trait. Vous avez deux étages, mais une seule colonne qui franchit ces deux étages, enfin une seule colonnade en l'occurrence. Donc ici, une imitation un peu plus poussée que dans l'exemple suivant, n'est-ce pas, si je vous le remets une seconde sous les yeux, vous voyez que ici c'est beaucoup plus sobre, hein, on voit bien le fronton central, mais il est moins mis en valeur que dans le cas de la Villa Barbaro, où vous avez la colonnade qui occupe l'ensemble de la façade du pavillon central. À côté de la Villa Barbaro, toujours dans le village de Mazer, se trouve une église qui est, je crois, la seule église qui ait été construite par Palladio aussi. Donc c'est un document tout à fait intéressant et qui se présente sous l'aspect d'un temple romain avec coupole. Donc là aussi, une sorte de pastiche d'architecture antique, avec une colonnade corinthienne en façade, surmontée d'un grand fronton triangulaire. Et à l'arrière-plan, vous voyez donc le dôme, la couverture de la coupole, et simplement deux petits clochers qui, évidemment, eux, ne sont pas spécialement à l'antique, mais il fallait bien aussi mettre les cloches quelque part pour qu'elles puissent sonner les offices et l'Angélus. Alors, je voudrais attirer votre attention d'abord sur la qualité de l'ordonnance de cette façade, hein, qui est réellement très belle, dans un état de conservation tout à fait remarquable, et aussi sur la présence de ces chapiteaux corinthiens, qui sont eux aussi d'une très grande qualité, et un petit détail supplémentaire qui est constitué par ces guirlandes de feuillages et de fruits que vous voyez suspendues entre les colonnes, et qui font partie donc de l'œuvre, hein, elles sont en stuc, et ont été réalisées sur la commande de Palladio lui-même. Vous en apercevez d'autres qui sont simplement en relief sur le mur que vous distinguez entre les colonnes. Alors, ces guirlandes montrent à quel point les architectes italiens poussaient, et Palladio en particulier, poussaient le souci du détail, puisque c'est une observation tout à fait archéologique que l'on retrouve notamment, je vous en montre juste un exemple, sur une peinture de la maison de Livie, la femme d'Auguste, hein, sur le Palatin à Rome, où vous voyez représenter en trompe-l'œil une colonnade avec ces grandes guirlandes de feuillage qui étaient suspendues entre les colonnes. Alors, ces guirlandes existaient dans l'Antiquité, mais pas sous forme sculptée. À l'occasion des fêtes, on décorait les temples ou les colonnades des portiques avec des guirlandes. Les peintures nous en ont conservé le souvenir, et Palladio a poussé le souci du détail jusqu'à les reconstituer, et il n'y manque en fait que les couleurs pour qu'on puisse imaginer que c'était de vraies guirlandes qu'il a accrochées aux colonnes de l'église du village de Mazer. Alors, je voudrais aussi vous montrer un petit détail à propos des chapiteaux. Alors, il ne s'agit plus d'un chapiteau de la Villa Mazer, mais peu importe, de l'église de Mazer. Je viens de faire allusion au fait que ces architectes antiques, et Palladio en particulier, avaient un grand souci du détail. Mais nul n'est parfait et ils n'étaient pas archéologues. Donc je les regarde de très haut, évidemment, forcément. Mais Je vous explique pourquoi. Voici un des chapiteaux de la Maison Carrée de Nîmes. Ces chapiteaux présentent des feuilles d'acanthe dont toutes les digitations se terminent de façon arrondie. Et c'est ce qu'on appelle en architecture l'acanthus mollis, l'acanthe molle. On ne risque pas de se piquer parce que toutes ces petites digitations donc, sont arrondies. Et tous les chapiteaux qu'on connaît à Rome, à Nîmes et dans tous les endroits du monde romain, surtout du monde romain occidental, où on a trouvé des chapiteaux corinthiens, présentent cette caractéristique qui a donc été imitée par les architectes de la Renaissance, qui ne savaient pas que dans la partie orientale de l'Empire, on faisait des feuilles d'acanthe avec les feuilles pointues. C'est ce qu'on appelle l'acanthus spinosa, c'est-à-dire l'acanthe épineuse. Et alors c'est un tout petit détail, mais qui est très intéressant du point de vue archéologique, parce qu'il permet, lorsqu'on voit dans une collection, par exemple, ou dans un musée, un chapiteau d'époque romaine, un chapiteau corinthien d'époque romaine, dont l'origine est inconnue, de l'attribuer immédiatement à un atelier occidental ou oriental. Et cette distinction n'était pas connue, bien entendu, des architectes italiens de la Renaissance, qui n'étaient pas allés dans l'Orient romain, j'en redirai un mot dans un instant. Et donc, nous voyons bien que même dans les plus ultimes détails de leurs imitations, ces architectes de la Renaissance italienne s'inspiraient en réalité uniquement de l'architecture romaine qu'ils connaissaient chez eux, mais qu'ils appelaient l'architecture à l'antique. Je donne encore, parce que sinon mon épouse ici présente me dira que c'est un scandale de l'avoir oublié, deux images du théâtre olympico, du Teatro Olimpico qui se trouve à Vicence et qui est une extraordinaire œuvre de Palladio. Vous savez, c'est un petit théâtre qui est un véritable bijou. Voici une vue de la partie supérieure des gradins, surmontée d'une colonnade un petit peu fictive, évidemment, mais qui est directement inspirée de ce qui était le cas dans les grands théâtres ou amphithéâtres romains, où il y avait au sommet des gradins une colonnade, un portique qui permettait aux gens, au moment de l'entracte, d'aller manger leurs esquimaux et leurs caramels tranquillement sous une colonnade pour être à l'abri du soleil ou de la pluie, n'est-ce pas ? Donc Palladio a repris ce motif, en partie du moins, dans son petit théâtre. Quant au mur de Seine, que vous connaissez sans doute, qui est un morceau extraordinaire, c'est aussi une imitation d'un bâtiment de Seine de l'époque romaine. Alors vous savez, il y a derrière ce trompe-l'œil extraordinaire, mais je n'insiste pas là-dessus parce que ce n'est pas mon sujet, il est évident que les grands théâtres que vous connaissez, de l'époque romaine, là j'ai pris un exemple un peu lointain, en Libye, sont évidemment les sources d'inspiration directes de Palladio, qui a... je vous montre un autre exemple aussi, qui est la bibliothèque de Celsus à Éphèse, avec ses ordonnances superposées, n'est-ce pas, qu'on qualifie souvent de baroque, même si, évidemment, à l'époque romaine, le baroque n'existait pas. On voit bien, en tout cas, d'où vient l'inspiration palladienne. C'est pas seulement Palladio, mais en tout cas dans son théâtre, c'est tout à fait net. Alors, je dis juste un tout petit mot sur ce bâtiment que certainement beaucoup d'entre vous ont vu. Il se trouve dans l'Orient romain, puisqu'il est en Turquie, en Asie mineure. Mais il présente un petit détail que vous ne voyez pas sur la photo, c'est que les acanthes qui sont sur les chapiteaux sont des acanthes mollis, c'est-à-dire des acanthes occidentales. Et quand les archéologues s'en sont aperçus au moment de la découverte de cet édifice, ils se sont dit « mais c'est pas normal ». Et ils ont rapidement compris, et ça a été confirmé par des textes, que cet édifice a été construit donc, sur le territoire de la Turquie actuelle, mais par des ouvriers spécialement venus de Rome, et qui ont donc importé pour ce bâtiment-là spécialement ce type d'acanthe. Pour vous dire donc à quel point ce détail est important. Enfin, je terminerai cette petite revue palladienne par la fameuse Villa Rotonda que vous connaissez aussi. Si vous ne l'avez pas visitée, vous pouvez la visiter grâce au fameux film de Lozé, le Don Giovanni, qui est tourné, dont toute la fin est tournée dans cette villa qui se trouve juste aux portes de Vicence. On l'appelle la Rotonda, mais c'est en réalité la Villa Almerico Capra, qui est un vraiment un des ouvrages les plus achevés de Palladio. C'est pas forcément celui qu'on trouve le plus beau, mais c'est celui dans lequel il a investi le plus de réflexion. Cet édifice, comme vous le savez sans doute, présente 4 façades identiques. Donc c'est le souci de la symétrie poussée à l'extrême, 4 façades qui convergent vers la coupole centrale. Donc nous avons une ordonnance qui est tout à fait inhabituelle dans le monde romain, mais qui est constituée entièrement de citations d'architecture romaine, ne serait-ce que la surélévation de l'édifice sur un podium, qui est caractéristique de l'architecture romaine et beaucoup moins de l'architecture grecque. Alors, cette villa repose sur un plan extrêmement simple. Vous avez le cercle central et puis ces 4 façades. Autour du cercle se répartissent de façon parfaitement symétrique les salles d'habitation. Inutile de vous dire que ce n'est pas très commode en réalité à vivre, je pense. Les cuisines sont naturellement en sous-sol. Les escaliers sont cantonnés dans les angles laissés libres par le cercle central. Et la construction est totalement géométrique. La construction part de 2 carrés sur l'un horizontal et l'autre sur pointe. Et l'architecte construit donc en alternant les carrés à 45 degrés, construit successivement sur les diagonales des carrés de plus en plus grands, alternativement, donc horizontaux et sur pointe. Palladio était extrêmement sensible aux proportions, et j'ai placé ici une petite citation traduite en français. Les proportions des voix sont harmonie pour les oreilles, celles des mesures sont harmonie pour les yeux. De telles harmonies plaisent souvent beaucoup, sans que quiconque sache pourquoi, à l'exception des chercheurs de la causalité des choses. C'est délicieux. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes devant un bâtiment, eh bien, vous trouvez qu'il a des proportions agréables et belles, mais vous ne savez pas pourquoi. Et c'est l'architecte qui va vous expliquer pourquoi. Parce qu'il a construit ce bâtiment en fonction d'un tracé géométrique qu'il a choisi avec des proportions précises, qu'il a choisi parce que ce sont des proportions qui sont agréables à voir. Donc il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux, d'un petit peu magique, et en même temps de tout à fait rationnel, puisque ça repose sur des calculs simples et qui sont uniquement géométriques et qui ne demandent pas des compétences énormes, mais qui sont suivies avec une fidélité parfaite par l'architecte. Alors je vous présente ici, pour en avoir un. Il est interdit de prendre des photos à l'intérieur de la Villa Rotonda, malheureusement, donc je ne peux pas vous montrer d'image de la coupole centrale. Je vais vous la montrer quand même sous forme de sa maquette. Vous voyez que c'est une coupole qui occupe toute la hauteur de la. Enfin, c'est une salle cylindrique, couronnée d'une coupole, qui occupe toute la partie centrale de la villa. Et quand vous y êtes, vous ne pouvez pas vous empêcher, évidemment, de penser à un monument extrêmement connu de la ville de Rome, qui est le Panthéon. Je dirais que, d'une certaine manière, toutes les coupoles classiques sont plus ou moins les descendantes du Panthéon, qui date, comme vous le savez, dans sa forme actuelle, du moins, de l'époque de l'empereur Adrien, du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui est le seul monument antique qui soit totalement intact, 100% intact, et qui a évidemment fait l'admiration de tous ses visiteurs depuis toujours, et y compris évidemment des architectes de la Renaissance. Alors voilà donc cette Villa Rotonda qui est un petit peu a un aspect, à vrai dire, assez austère quand on la regarde, quand on en fait le tour, mais qu'il faut considérer comme autant une réalisation esthétique que comme un concept, comme une sorte de mise en scène géométrique de proportions. Et c'est là ce que voulait faire Palladio. S'inspirant lui-même de Vitruve, comme je vous l'ai dit, et dans beaucoup de cas des recherches géométriques dont Vitruve parle dans son traité. Alors, tout cela est dans l'air du temps et vous est familier. Naturellement, je voudrais petit à petit dériver vers d'autres considérations. Je vous présente ici un tableau d'Hubert Robert, qui est un des nombreux tableaux bien connus de ce peintre. Vous avez à gauche, sur la photo, enfin sur le tableau, une reproduction plus ou moins fidèle justement du Panthéon à Rome que Hubert Robert s'amuse ici à replacer dans un paysage de ruines, en y ajoutant aussi des détails que vous trouvez curieusement, ces deux petits clochetons que vous avez déjà trouvés tout à l'heure sous la main de Palladio. Je vous montre aussi une autre église bien connue de Rome, hein, l'église du Gesù, qui est de Vignoles et de Della Porta, et qui est considérée comme le manifeste de l'arrivée de la période baroque, et aussi un manifeste religieux, comme vous le savez, puisque c'est une église tridentine, hein, qui est la première illustration fulgurante des conclusions, si je puis dire, du Concile de Trente. Dans tout cela, comme vous l'avez remarqué, nous avons été entièrement focalisés sur l'architecture romaine antique. J'en montrerai un petit avatar qui vous est familier, n'est-ce pas, puisque nous sommes à Bordeaux, si je ne me trompe, ici, voilà. Et je terminerai cette partie de mon exposé, avant d'aborder la dernière, par un ouvrage publié en France sous Louis XIV, qui est le traité de Vitruve, encore lui, traduit et surtout illustré par Claude Perrault. Claude Perrault est, comme vous le savez, l'auteur de la colonnade du Louvre, hein, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et donc, vous avez ici un autre exemple, mais alors français cette fois-ci, d'un grand architecte qui retourne directement à la source vitruvienne et qui donc lui aussi s'offre le luxe d'illustrer Vitruve. Mais quand on regarde la colonnade du Louvre, on s'aperçoit qu'elle n'est pas vraiment romaine. C'est-à-dire ce n'est pas un pastiche, ce n'est pas une imitation d'édifice romain, c'est un édifice dans le style antique, dans le style peut-être romain, mais complètement réinterprété, et il ne viendrait à personne l'idée d'imaginer qu'un bâtiment romain ait pu ressembler à ça. Donc on voit que les architectes ont quand même beaucoup joué avec leurs sources d'inspiration. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est qu'il est venu un temps où ces sources d'inspiration ont changé, et où on a continué à travailler, à faire des édifices à l'antique, mais d'une façon complètement différente. Et ça sera la conclusion de cette petite conférence. Des événements historiques ont joué un rôle, je dirais, de déclencheur. Ça aurait pu se passer autrement. Ces événements historiques, c'est la révolte des Grecs contre l'occupation ottomane, turque, au début du 18e siècle, du 19e siècle, hein, de 1823 à 1830, illustré entre autres par Delacroix. Vous avez ici à droite le fameux tableau de la Grèce expirante à Missolonghi, et à gauche, je n'ai pas besoin de vous le présenter puisque c'est un tableau que nous avons la chance d'avoir à Bordeaux, hein, les massacres de Scios, donc qui ont été avec les orientales de Victor Hugo, avec toutes sortes d'autres manifestations culturelles, des sortes de symboles de la volonté des Européens de prendre fait et cause pour les Grecs, les aider à se libérer de l'occupation et, à travers eux, retrouver la Grèce antique. Parce qu'il faut bien voir que, jusqu'à cette époque-là, en réalité, on ne connaissait de la Grèce antique que sa littérature. Les gens n'allaient pas en Grèce, ou très peu, sauf quelques courageux, et notamment les membres de la société des dilettanti. Alors, vous connaissez sans doute l'existence de cette noble société qui a été fondée à Londres au XVIIIe siècle par un groupe d'aristocrates et de grands bourgeois britanniques qui se sont réunis dans une sorte de club dont le droit d'entrée était extrêmement élevé, et les fonds ainsi recueillis avaient pour destination de financer des envois, des missions d'architectes et d'antiquisants, on ne disait pas encore archéologues, on disait plutôt antiquaires à l'époque, qui iraient dans le monde grec antique, c'est-à-dire en Grèce, la Grèce d'aujourd'hui, et aussi sur le territoire de la Turquie d'aujourd'hui, pour faire des relevés architecturaux des bâtiments antiques. Donc c'était vraiment un souci scientifique de découvrir ou de redécouvrir l'architecture grecque, dont seuls les quelques rares voyageurs qui avaient fait escale à Athènes avaient une idée un peu précise. Alors cette société des dilettanti a été donc fondée au milieu du XVIIIe siècle. Parmi les fondateurs, il y en a un que j'aime beaucoup parce qu'il me met en appétit, c'est Lord Sandwich, mais il ne faut pas se moquer des noms des personnes, ils ne l'avaient pas choisi. Et ils ont publié, donc, au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, hein, puisque la société existe encore aujourd'hui, des ouvrages tout à fait remarquables, avec des planches qui présentent à la fois des paysages, mais aussi des cartes géographiques, et surtout des relevés d'architecture d'une précision absolument admirable. Beaucoup plus précis encore, si c'était possible, que les relevés qu'avaient fait les architectes italiens sur les ruines de Rome. Je vous en montre donc ce petit exemple, là, juste pour vous donner une idée de la qualité du travail. Et puis, ne le lisez pas en entier, c'est une annonce que j'ai trouvée l'année dernière de la Société des Dilettanti qui offre chaque année une bourse, comme c'était déjà le cas au XVIIIe siècle, pour aller étudier les monuments dans le monde grec antique. Donc, c'est un appel à candidature avec la spécification des pièces qu'il faut mettre dans le dossier. Et puis, il y a un jury qui va se réunir et qui attribuera donc cette bourse. Donc, vous voyez que la tradition n'est pas perdue. Et voici encore un exemple donc de la qualité des travaux de ces architectes, hein, qui nous ont livré donc les premiers relevés d'édifices, hein, essentiellement de temples grecs, qui étaient donc encore inconnus en Europe et qu'on pouvait enfin connaître, au moins grâce à ces remarquables publications. Alors, tout cela a eu une influence énorme dans le monde européen, et cette influence de la Grèce est venue s'ajouter brusquement à l'influence de l'art romain, au moment justement du déclenchement de la révolte des Grecs, enfin de la guerre de libération de la Grèce. Alors déjà avant, au XVIIIe siècle, les Anglais, grâce au fait que des architectes anglais se rendaient en Grèce, avaient pu faire réaliser chez eux des édifices qui mélangent certaines parties qui sont encore italianisantes, si je puis dire, hein, notamment tout le rez-de-chaussée ici avec ses parements à bossage. La façade, le corps central aussi est très italianisant, c'est du palladio. Mais si vous regardez bien, à l'extrémité de la façade, à droite, vous avez un bout de temple grec qui vient se rajouter, de façon un petit peu maladroite sans doute, mais qui est annonciateur de temps nouveau. Voici un autre exemple tout à fait étonnant, parce qu'on croit que c'est un peu palladianisant, mais en réalité, quand on compare au relevé qu'on trouve dans les ouvrages des dilettanti, on s'aperçoit que ce sont des pastiches un peu arrangées, hein, encore dans un goût un peu italianisant, mais de l'époque de l'architecture grecque et non pas seulement de l'architecture romaine. Donc, à partir du XIXe siècle, cela va donner une tendance complètement nouvelle. Quand la Grèce a réussi à se libérer de l'occupation ottomane, immédiatement, des quantités d'érudits, d'amateurs, d'antiquaires se précipitent en Grèce et font connaissance, enfin, avec le monde grec antique. Et cela va donner des résultats tout à fait étonnants. Alors je vous montre encore ici un exemple du XVIIIe siècle au château de Kenwood, où vous avez des imitations de détails de décors grecs qui étaient déjà connus dans le monde européen, mais les choses changent complètement au XIXe siècle. Et vous avez ici un exemple dont vous voyez d'emblée qu'il est totalement différent de ce que faisaient les architectes italiens de la Renaissance. Nous sommes ici à Munich. Ces propylées de la Königsplatz sont très exactement la reproduction des propylées, c'est-à-dire du vestibule monumental qui ouvre l'accès à l'acropole d'Athènes. Alors, évidemment, quand on visite l'acropole aujourd'hui, on trouve ces propylées dans un état de ruine avancée, et donc on ne se rend pas compte de cette proximité. Mais si vous regardez les dessins qu'on a faits, les relevés, les restitutions des propylées de l'acropole, vous voyez que cette façade dorique extrêmement sévère est donc une sorte de clone de l'édifice antique, ce qui veut dire que l'architecte qui a construit cela a commencé par faire des relevés architecturaux de la ruine qui se trouve à Athènes, a étudié les blocs errants au sol pour reconstituer sur le papier la façade et ensuite l'a transposée à Munich à l'époque du roi Louis Ier de Bavière. Vous remarquez en particulier un détail, puisque le souci du détail est poussé très loin, c'est que l'escalier central sur le dessin à droite est interrompu. Il était ainsi dans l'Antiquité pour laisser passer les bœufs du sacrifice de la grande procession en l'honneur d'Athéna. Et vous voyez qu'à gauche, à Munich, on a imité ce détail là pour laisser passer les voitures ou les piétons. Donc, et en écartant en plus légèrement les deux colonnes centrales, c'est le cas dans l'édifice d'origine et c'est le cas dans l'imitation. Donc c'est vraiment une imitation, je dirais, millimétrique. Donc nous ne sommes plus du tout dans le domaine de la transposition agrémentée, stylisée, modifiée, mise au goût du jour, à laquelle s'adonnaient les architectes italiens. Nous sommes ici dans le domaine de l'imitation pure et simple. Je vous en donne un autre exemple. C'est la Bibliothèque nationale d'Athènes, qui a été construite par un architecte danois, un Théophile von Hansen, au milieu du XIXe siècle. Il était lui-même l'élève d'un architecte très connu qui s'appelait Schinkel, que vous connaissez sans doute. Et il s'est amusé, si je puis dire, à construire, sur commande naturellement, en plein centre d'Athènes, la Bibliothèque nationale, l'Académie et le siège de l'université, en faisant dans chaque cas un édifice totalement reconstitué, un édifice grec à l'antique. Mais c'est vraiment une reconstitution. Hein. Ce qui veut dire que, aussi, du point de vue fonctionnel, ces édifices ne sont pas très adaptés, évidemment, à leur fonction moderne. Mais au moins, la façade peut nous permettre de comprendre à quoi ressemblait exactement un temple grec. Alors que si vous allez regarder une villa palladienne ou une église d'Alberti ou de Vignoles, vous ne verrez pas exactement à quoi ressemble un édifice romain. Et on comprend pourquoi. De toute façon, les édifices romains, on les avait sous les yeux à Rome et ailleurs. Donc ici, vous avez une véritable volonté archéologique qui marque un changement complet dans la façon d'aborder l'Antiquité. Voici l'autre exemple, je vous montre juste deux sur les trois exemples de von Hansen à Athènes. Il s'agit du siège de l'université, dans l'édifice précédent il s'agissait d'une façade dorique, et ici vous avez une façade ionique. Et il s'agit là aussi d'une reconstitution extrêmement précise, avec même le raffinement des couleurs et de la dorure, puis, un petit peu exagéré peut-être, parce qu'on sait qu'il y avait parfois de la dorure sur certains éléments de façade des édifices grecs, mais là, je dirais que von Hansen y est allé un peu fort. Hein. Mais finalement, avec un peu de patine et grâce à la pollution de l'air à Athènes, tout ça s'est arrangé. Alors, tout ceci pour vous amener à la conclusion que je voudrais vous faire partager, qui est que, en fait, l'architecture européenne, quand on en parle et qu'on dit c'est que à partir de la Renaissance on a fait de l'architecture à l'antique, c'est pas tout à fait assez précis. Il faudrait dire en fait qu'on a fait de l'architecture à la romaine. Tout ce que l'on voit à l'époque de la Renaissance, ce sont des imitations à des degrés divers de l'architecture romaine antique. Et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a commencé à faire de l'architecture à la grecque. Donc confondre les deux sous le titre architecture à l'antique est évidemment un petit peu abusif, puisqu'il y a quand même de très grandes différences entre l'architecture romaine et l'architecture grecque, notamment dans une certaine austérité des formes. Et je vous en donnerai un dernier exemple qui me servira de conclusion, mais qui, j'espère, vous plongera dans des abîmes de méditation. Il s'agit à droite d'un temple grec qui se trouve dans l'île d'Égine, en face d'Athènes. C'est un endroit absolument admirable que je vous conseille d'aller visiter si vous avez l'intention d'aller en Grèce prochainement. C'est à une heure de bateau d'Athènes et vous montez dans une île vous êtes entouré de pistachiers en fleurs si vous y allez au printemps naturellement, et au sommet de l'île vous tombez sur un temple dans un état de conservation absolument merveilleux. Ce temple a été découvert au début du XIXe siècle par des voyageurs allemands. Et ces frontons sont d'ailleurs au musée les sculptures de ces frontons sont au musée de Munich. Ils ont été achetés par le roi Louis Ier de Bavière, justement. Mais à cette époque-là, les architectes français qui étaient pensionnaires à la Villa Médicis, à Rome, avaient pour parmi leurs devoirs celui de faire ce qu'on appelait un envoi. Au cours de leur scolarité à Rome, ils devaient chacun faire une reconstitution peinte, une peinture reconstituant un édifice antique. Et c'est à l'occasion d'un de ses envois de Rome qu'un des architectes a parlé à un de ses amis d'un temple qu'on venait de découvrir en Grèce, mais qu'il n'avait pas vu lui-même, dont il avait pu obtenir quelques dessins. L'ami en question était en séjour à Rome, il s'appelait Alphonse Tiac. Et quand Tiac a gagné le concours ouvert par la municipalité de Bordeaux pour créer un palais de justice, eh bien, Tiac a sorti de ses cartons les dessins et les relevés qu'il avait pu obtenir du temple d'Égine, et c'est la colonnade de la façade du palais de justice de Bordeaux qui ouvre sur la place de la République, qui est donc la reproduction intégrale d'un temple grec qui se trouve donc à côté d'Athènes. Donc vous avez à Bordeaux, nous avons la chance d'avoir d'abord une des plus belles villes du monde, ça va de soi et tout le monde le sait, mais en plus du point de vue de l'architecture, nous avons beaucoup d'exemples, une grande majorité d'exemples, évidemment, d'architecture héritée de la période baroque, avatar du goût pour l'antique de la Renaissance, mais c'est un goût pour l'art romain. Et nous avons, et c'est mon triomphe, nous avons heureusement un temple grec à Bordeaux. Je vous remercie de votre attention.